gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Moi je, bah moi je vous entends.
Moi aussi je m'entends.
Et bah c'est bien.
Et bah nous non.
Alors c'est super cool ce soir dans la causerie, on règle nos casques.
Et pourtant et... Clara est là, je ne comprends pas.
Mais pas la technique.
Et oui, car ce soir autour de la table nous avons Clara.
Bonsoir.
Et puis nous avons aussi Stan.
Bonsoir.
Est-ce que vous avez entendu Stan? Oui, et puis on a aussi Fab.
Salut à tout le monde.
Et vous avez entendu Fab. Et à la technique ce soir, vous avez Jean-Yves.
Bonsoir, je m'entends.
Ah. Et, voilà. Et Jonathan pour cette intro.
Ouais, c'est moi. Et puis, et ben, vous pouvez retrouver la causerie un petit peu partout hein, sur Internet, oui. Notamment sur le site radiocanu.org, sur les blogs.
Blog des émissions, ou alors c'est à blogs.radiocanu.org. / la causerie.
Ah, et puis vous pouvez même nous écrire aussi sur des adresses internet.
La causerie canu @gmail.com. La causerie canu @gmail.com.
Oui, parce que comme Clara n'est pas à la technique, on s'est dit que ce soir elle venait parler. Du coup.
Eh ben non.
On a cru. On a cru, voilà.
Elle fera les brèves en fin d'émission, vous inquiétez pas.
Bim. Et évidemment, vous pouvez nous suivre sur un réseau social qui s'appelle Facebook, voilà.
Et c'est très connu, d'ailleurs.
Non, c'est pas...
C'est très...
Ouais.
Voilà.
Et donc, Stan, tu ouvres cette causerie avec une conférence mégawatt.
Alors, c'est pas une conférence. C'est un scénario. Et alors je parlais d'écologie, c'est un scénario écologique donc qui a été mis en place et inventé par Negawatt. Alors Negawatt, qu'est-ce que c'est déjà? Donc c'est une association qui est pour la transition énergétique réaliste et soutenable. En fait, donc dans l'idée, c'est une vingtaine d'experts qui viennent de tous bords différents et qui sont dans une idée de qu'est-ce que voilà, comment est-ce qu'on peut aller dans il y a beaucoup de choses qui bougent derrière moi, c'est très flippant, mais bon.
c'est Jean-Yves à la technique, ne t'inquiète pas. Donc Negawatt.
Donc c'est une vingtaine d'experts qui travaillent en fait pour arriver, pour donner un scénario, ce qu'ils appellent un scénario, donc de ce qui est possible à faire pour aller dans le bon sens d'un point de vue écologique.
C'est des experts de l'écologie ou...
C'est des experts de l'écologie mais aussi dans plein d'autres milieux. Il y a des experts en automobile, etc. Dans plein de domaines, ils ont essayé de taper un peu large pour avoir vraiment le maximum de visibilité, de vision en tout cas. Et ils se basent vraiment, toute leur réflexion est basée sur trois piliers. Le premier pilier, ça va être la réduction des besoins dans les usages individuels et collectifs par rapport à l'énergie. Donc c'est ce que le scénario appelle sobriété. C'est bêtement comme éteindre les vitrines et les bureaux inoccupés la nuit. C'est ce qu'on n'a pas besoin en fait par rapport à nos besoins réels. Après il y a l'efficacité. C'est pour qui permet, donc ça c'est une réflexion, c'est pour voir est-ce qu'il y a des possibilités d'optimiser en fait ce qu'on utilise comme énergie pour consommer moins en optimisant un petit peu nos dépenses. Et le troisième point, c'est la réflexion dans les cas possibles, et déjà c'est important, c'est dans les cas possibles, c'est les transitions progressives des énergies fossiles et nucléaires vers le renouvelable. Parce que c'est pas toujours possible immédiatement en fait. Ou c'est pas toujours possible du tout même. On aura forcément ou possiblement besoin toujours d'un peu d'énergie fossile, d'un peu d'énergie, enfin voilà. Mais au maximum, la réflexion de Négawatt, c'est d'aller vers les énergies renouvelables. Bien entendu, vu qu'on parle d'écologie, de toute manière, c'était assez prévisible. C'est un scénario qui est très long, très progressif, on ne parle pas d'un changement immédiat, hein. C'est un scénario qui est basé sur de 2017 à 2050. Ils sont conscients qu'on ne peut pas changer tout au tout, on ne peut pas du jour au lendemain se dire « Hop, en France, on arrête toutes les centrales nucléaires ». C'est bien beau, mais c'est irréaliste, parce qu'on n'aurait pas de quoi créer l'énergie qu'il faut pour vivre actuellement. Donc il faut faire ça progressivement, de manière adaptée. Et bon, bah, bien entendu, on est là face à, ça répond à tous ces...
Oui, parce que c'est pas des gens qui sont non plus pour la décroissance, c'est pas des gens qui veulent reculer dans la technologie.
Absolument pas, leur but c'est vraiment de continuer à avancer, et c'est pas du tout un recul technologique. On dit pas on arrête, on se dit pas voilà. On est vraiment sur un scénario qui est pas un scénario de science-fiction, mais c'est un scénario qui ne nécessite d'aucune rupture technologique, ou économique, ou sociale. Les évolutions, elles sont profondes. Il y a quelque chose qui vraiment est vraies choses à faire, mais pas de manière brutale. À chaque fois, il y a une réflexion sur l'individu, sur le collectif et sur le politique.
Non, c'était juste le terme de rupture technologique, je sais pas si ça parle à tout le monde en fait. La rupture technologique, c'est quand on fait un grand bond d'un seul coup, quand on change quelque chose d'un coup. Le passage à la machine à vapeur, ça a été une rupture technologique, par exemple. Et c'est vrai que dans le scénario Négawatt, je suis allé voir, comme on en a parlé à la prépa, il n'y a pas la notion de dire il y a une nouvelle énergie qui existe et on va la mettre en place tout de suite et ça va tout remplacer. Il y a plutôt l'idée de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sous la main et pour remplacer. Et si quelque chose venait à être découvert, tant mieux. Mais là, pour l'instant, on l'a pas, quoi.
C'est un petit peu l'idée aussi. Dans tout le scénario, quand on le lit, il y a rien de révolutionnaire. Mais enfin, faut pas se leurrer, il n'y a pas de solution révolutionnaire par rapport à toutes les problématiques de réchauffement climatique, d'épuisement des ressources, des dangers, des centrales nucléaires, etc. Il n'y a pas de solution miracle qui va arriver, qui va popper comme ça, on va se dire « Oh, bah oui, bah voilà, c'est bon, on est sauvé ». Non, on n'est pas sauvé, il va falloir vraiment aller de l'avant. Et donc ce scénario, il reprend juste plein de petits points. Point par point, et dire là on peut faire des efforts, là on peut évoluer, là on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. C'est un scénario d'optimisation et de réflexion sur l'intégralité de notre société. Si on regarde au niveau des bâtiments, par exemple, en sobriété, ça propose d'augmenter le nombre de personnes par logement, d'essayer de favoriser les colocations entre étudiants et seniors, par exemple, de réduire le nombre de maisons individuelles, de réhabiliter les bâtiments existants. L'isolation des bâtiments, en fait, des vieux bâtiments, c'est un gain énergétique qui est complètement considérable. Enfin, c'est inimaginable. Ça parle d'augmenter de l'obligation d'appareils électriques un peu plus performants, un peu plus écolo.
Et il me semble que tu me disais, quand on en avait discuté, aussi peut-être rassembler les sources d'énergie, c'est-à-dire par exemple avoir un seul point d'émission pour Internet, la télé, ce genre de choses.
C'est ça, c'est diminuer le nombre de
périphériques.
Ouais, d'appareillages en fait chez soi pour en avoir un unique, du moins un minimum, parce que souvent chez nous en fait on les laisse allumer, ils sont en veille tout le temps, et donc tant qu'il n'y en a qu'un seul en veille allumé plutôt qu'une dizaine dans son appartement. Quoi. Il y a toute cette réflexion donc sur obliger aussi l'installation de chauffage à pompe à chaleur pour les nouveaux bâtiments, etc. etc.
Et dans ce que tu dis, on dirait que là, ça concerne particulièrement l'usage des particuliers, mais est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur les entreprises et leur façon de produire ?
Alors, il y a une grosse réflexion sur les entreprises, sur la manière de produire, mais le problème, c'est que le scénario en parle, donne des grandes lignes, etc., mais... Je voulais en venir un peu plus tard sur ce sujet-là, mais sur l'individu, on peut dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, enfin, on pourrait faire ça, on pourrait améliorer ça, etc. Et on l'entend, et bon, si on a une réflexion écologique, on peut se dire, je vais le faire. Pour une entreprise, eux, ils n'ont aucun poids par rapport à une société, par rapport à l'entreprise. Ils peuvent pas dire aux entreprises, oui, éteignez vos lumières le soir, ou vos PC le soir, etc. Ça, c'est des vrais... Ils donnent ces informations-là, mais après, c'est une vraie notion politique, c'est une vraie notion éthique, mais au niveau mondial, en fait, qu'il faut prendre en compte. Donc, là, pour le coup, j'ai envie de dire, ça, c'est c'est la tristesse un petit peu de ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a beau faire des grandes théories et des grandes lignes, tant qu'il n'y aura pas un vrai mouvement mondial sur le sujet, bah les entreprises en ont toujours rien à foutre, quoi. Parce que s'il y a une entreprise qui fait ça, il y en a une autre juste qui va essayer de lui faire concurrence en faisant quelque chose de peut-être moins écolo, mais plus rentable, etc. etc. Donc c'est tant qu'on n'arrive pas sur un système un petit peu vraiment, enfin, une idéologie mondiale sur le sujet, ou une avancée mondiale, ça c'est... Voilà, pour la prépa, je suis arrivé en disant j'avais un peu des illusions en fait, et c'est par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, et ça en fait un peu partie ce côté. Il y a plein de bonnes idées, il y a plein de choses, mais il faut une vraie prise de conscience mondiale. Et il y a eu des histoires COP21, etc., etc. Mais pour l'instant, on voit pas vraiment d'avancée. On voit pas des choses qui, voilà. Et il y en a qui même se retirent de la COP21 pour faire plaisir.
Et rien ne se fait concrètement au final.
Pour l'instant, rien ne se fait concrètement. Et même si même si c'est pas trop tard, c'est trop tard en fait. Les scénarios nous disent qu'on peut encore y arriver, mais au bout d'un moment, il faut aussi se dire que c'est maintenant qu'il faut le faire, pas demain.
En fait, ce qui a changé par rapport aux années 90, c'est que en 90, on pouvait espérer ne pas dépasser les plus de degrés. Aujourd'hui, on sait qu'on va les dépasser. Et la question qui est aujourd'hui, plus de degrés entre 1990 et les températures actuelles, la question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'où on va monter, quoi. Parce qu'on sait pas faire après. Enfin, faut être très clair, on sait en faire entre plus 2 et plus 4. Hein. On sait que l'humanité est viable entre plus 2 et plus 4. Après, c'est le grand saut dans l'inconnu, quoi. Non, mais je suis pas là pour être joyeux ce soir.
Non, non. je vais juste continuer un petit peu sur le scénario de Negawatt, parce qu'il y a une chose qui est très importante que je voulais donner. Et c'est un petit peu, ça rejoint ce que tu disais sur les entreprises, etc. Il y a toute une réflexion économique, parce qu'on sait que c'est très important. On peut pas juste faire des scénarios pour dire il faut faire ça, ce sera génial. Là, on parle d'économie de 400 milliards d'euros entre l'investissement pour la transition énergétique et ce qui va nous demander en fait en import d'énergie fossile pendant ces prochaines futures années en fait. S'ils ont calculé le juste importer des énergies, ça va nous coûter tant, et investir dans l'énergie renouvelable, ça va nous coûter tant, et au final il y en a un qui est plus rentable que l'autre. Il y a également sur les créations d'emplois. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils donnent pas juste en disant nous ça va créer tant d'emplois. Non, ça va supprimer tant d'emplois. Ça va créer tant d'emplois, et on est sur une balance un petit peu positive. On renouvelle pas le... Il y a le truc qui vient de sauter, c'est affreux, je n'ai plus de son, je n'ai plus de retour.
Je peux rien faire.
C'est pas grave. La vision Negawatt, elle se trouve pas juste sur la situation actuelle. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'ils ont pris en compte aussi... Est-ce que vous m'entendez en fait?
Oui, on t'entend.
Oui. Bon, ça
tu
va.
Tu peux y aller.
Ils ont pris en compte, ils se sont dit, forcément, comme... il y a eu dans ces 10 dernières années les smartphones qui sont arrivés, ce qui a créé une consommation énergétique supplémentaire en fait, qui était inattendue, enfin qu'on pouvait pas forcément prévoir. Ils l'ont aussi mis dans leur scénario. Ils sont aussi dit que il va y avoir une nouvelle source consommatrice d'énergie, et il faut prendre en compte. Ils ont décidé que ça se prendrait à peu près l'équivalent de l'intégralité des lave-linges et des lave-vaisselles de la Terre. Voilà, on multiplie ça par deux et on se dit que ça sera à peu près, ça suffira pour compenser.
Bon, on en prend de toute façon la route, parce qu'on voit que les smartphones ont eu une implantation mondiale beaucoup plus rapide que prévu, parce que même Apple n'avait pas prévu ça, et qu'aujourd'hui en smartphone, il y a 2 milliards de smartphones qui circulent dans le monde et 7 milliards de téléphones, c'est-à-dire un par habitant.
Mais c'est tout à l'heure, et là ils ont dans cette idée-là, il y aura forcément quelque chose de nouveau qui va arriver un peu dans ce sens-là, et qui va couvrir la surface du globe, et tout le monde l'utilisera, et ça sera un nouveau besoin. Et voilà, le but de ce scénario négawatt, c'est pas d'enlever les besoins. Et quand on parle de sobriété, on parle pas de se serrer la ceinture de manière affreuse. On parle aussi de certains gestes du quotidien, un meilleur remplissage du lave-linge, donc diminution des appareils électriques, comme on a parlé tout à l'heure. Moi, je voulais juste préciser aussi que ce scénario, donc, il a été validé par l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a aussi travaillé pour proposer des petites alternatives à tout ça, pour essayer de voir si est-ce que ça semblait logique. Et donc, ils le valident complètement. Et même eux, dans leur scénario imaginé par rapport à ça, ils en sont pas très loin. En fait, ils sont un petit peu autour. Ils prennent pas tous les mêmes voies exactement, mais ça se complète à peu près. Si vous avez envie de vous renseigner, donc il y a un site qui s'appelle negawatt.org, donc pour rappel un watt c'est avec deux T, on le mettra sur le site, et vous trouvez, il y a des conférences vidéo, il y a des PDF, mais il y a surtout des très très bonnes idées qui sont que il y a plein de tailles pour tout ça. Il y a un PDF de 4 pages, de 12 pages, de 48 pages. Il y a des vidéos qui vont de 3 minutes à 2h30, donc qui vous détaillent et qui vous expliquent suivant le temps que vous avez pour vous renseigner sur tout ça. Et ben voilà, c'était juste pour parler un petit peu de ça, de Negawatt. C'est toujours pour dire qu'il y a des solutions, il y a des gens qui bossent vraiment dessus, et c'est pas non plus révolutionnaire, mais ça demande pas non plus de se privé de toute sa vie. On peut y aller, mais il faudrait juste que tout le monde y aille, et que le citoyen, comme le politique et comme l'entreprise.
En fait, pour que les gens se rendent compte, pour qu'on puisse à peu près éviter d'augmenter à plus 3 degrés, il faudrait que l'humanité revienne à sa consommation des années 70. Donc on va revenir un peu en arrière. Les années 70, c'est l'arrivée quand même de lave-linge, de tout ça. Donc ça ne veut pas dire qu'on va se priver de tout. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on revient à un niveau de vie qui est à peu près celui des années 70. Bon, je crois pas qu'il était, c'était pas horrible non plus. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, et sans vouloir casser un peu le moral, mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, 70% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'industrie et au transport. C'est les deux facteurs. Et le reste, en fait, c'est l'individuel. Donc c'est bien, hein, d'agir sur les 30%, il n'y a pas de problème, mais ça suffira pas. Qu'en fait, on réfléchit pas... comme tu disais, d'un point de vue mondial, à se dire il faut limiter les transports et il faut limiter l'industrie polluante, ben, jouer sur ces 30%, c'est cool, mais ça ne suffira pas à empêcher une catastrophe, en fait.
Ah, c'est ça
le problème.
C'est pas infime, mais c'est vrai que ce n'est qu'une partie du problème.
C'est ça.
Moi, je me dis que s'il y a des gens qui prennent la peine de bosser dessus, c'est que peut-être il y a vraiment un problème.
Ah, mais ça, il y a vraiment un problème.
Il y a un problème. Et puis, il y a même plus qu'un problème quand France 3 ou France 2, je ne sais plus, nous dit que la solution de tout ça, sinon, c'est de ne pas faire d'enfants.
Ouais.
Mais quand on en arrive à ça, en fait, je trouve que démontrer que on a un impact qui est plus que non négligeable, en fait.
Ça peut paraître provocateur, par contre, ce que l'étude qui disait faut pas faire d'enfants disait, c'est pas du tout qu'il fallait pas faire d'enfants. C'est de France 2 qui a transformé ça comme ça. C'est l'accès, en fait, à l'éducation pour les filles et les femmes. C'est plus en fait les femmes et les filles sont éduquées dans le monde et plus elles ont le pouvoir de prendre le pouvoir sur leur corps justement, et en fait plus moins il y a de grossesses non désirées, de familles énormes, parce que bah du coup il y a un contrôle des naissances qui se fait naturellement en fait par l'instruction. Et en fait c'est marrant parce que on voit aussi le côté machiste qu'il y a eu derrière, c'est qu'on a traduit ça par faut plus faire d'enfants, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'ils disaient. Même si c'était un
peu vers ça. J'ai pas lu ça, donc je sais pas. Ouais. Moi c'était plus sur le côté vu qu'en fait ce qui consomme, c'est de prendre l'avion, c'est de prendre tout
oui,
ça.
Non, mais
si t'enlèves une personne sur Terre,
dans les faits, ça arrive à ça. Sauf que c'est pas comme ça tout à fait qu'il l'avait présenté, en disant non, en fait, c'est surtout sur l'éducation des femmes et des filles, en fait. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un grand enjeu aussi à l'égalité.
Ça, c'est un autre grand drame, mais il faut aussi y aller, c'est affreux sinon.
Je vous continue de vous casser le moral. C'est parce que les chiffres, justement, dernièrement, qui sont sortis, j'amène ça en riant, mais c'est la première fois qu'on observe à nouveau des reculs sur l'instruction, des filles, etc., etc. Donc, ça rejoint plein de trucs, mais c'est qu'on voit de nouveau que dès qu'il y a une crise, de toute façon, les premières à morfler, c'est les meufs.
Les enfants, les meufs. Mais et oui, les animaux après.
Et tout ça, c'est vraiment. C'est effectivement, mais même en étant un révolutionnaire, je pense que de toute façon, on ne peut que résoudre les choses à l'échelle globale, en fait, avec des solutions locales. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous faire de la même manière, parce qu'on n'a pas les mêmes richesses dans les sols, parce qu'on n'a pas les mêmes climats, parce qu'on n'a pas... En fait, c'est tout ce truc-là, c'est qu'on a l'impression que soit on a le choix entre une solution globale, mais c'est-à-dire un peu de manière autoritaire, on va tous faire pareil, ou alors on fait rien. Sauf qu'en fait, c'est une articulation de tout ça, quoi. C'est-à-dire les spécificités régionales, locales, etc. Et une remise profonde en question de notre mode de fonctionnement et de consommation et tout ça. Est-ce qu'on peut aussi parler de la viande, tout ça, toutes ces industries-là et... Mais c'est pas anodin non plus, quoi.
C'est marrant parce qu'on a, tous un peu le même principe d'aller vers le mieux, on va dire. Et puis, comment y aller? Il n'y a pas qu'une seule manière d'y aller. Je pense que ça aussi, Negawatt, c'est montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin.
Mais non, mais c'est aussi montrer que sur tous les chemins, ils ne sont pas toujours aussi faciles, mais qu'il faut quand même y aller. Musique.
Oui, allons-y. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe?
Et plus rien ne marche dans ce radio.
Il n'y a plus la lumière. En haut.
Sérieux?
On est à l'antenne?
Ah oui, on est à l'antenne.
C'est ça.
Affirme.
Ah, hey, vous êtes sur la radio Canu, la plus rebelle et qui marche bien des radios. On vient de s'écouter Alice Fibilou avec son titre Fairy Heart, Fairy Mind.
C'est joli. C'est et vous êtes dans la causerie.
Et on est dans la causerie. J'ai commencé par ça.
Et les gens, ils doivent s'en douter quand ils nous entendent. Ils disent, ouais, ah, ça, c'est la causerie, c'est sûr.
Et puis ça, qui sont sur Canu.
102 de 22-23. Wesh.
Et donc, okay. Et donc, Jean-Yves, toi, tu voulais nous parler d'une campagne d'affichage qui t'a beaucoup plu.
Oui, je vous propose deux petits sujets. Alors, donc, effectivement, le premier, c'est sur la campagne TCL anti-fraude. Donc, jeudi 12 octobre, il y a le lancement d'une nouvelle campagne anti-fraude dans les TCL. Pour celles et ceux qui sont ailleurs que Lyon, c'est les transports en commun lyonnais. Alors, le visuel criminel, le ton est donné à l'américaine. Hein, alors, je m'explique. Chaque affiche traitant d'un délit différent présente une personne prise en photo, hein, de la taille au haut de la tête, avec un bandeau rouge sur les yeux, en anonyme, où on peut aussi se dire, tiens, c'est un peu chacun de nous qui pourrait être à cette place-là, en fait, de délinquants et de délinquantes. C'est un peu ça. Et chacune de ces personnes, hein, donc, tient une ardoise au niveau du torse, nous donnant le délit commis, hein, effectivement. Vous voyez un peu l'image, là? Vous voyez bien? Alors, les délits, hein, ça va de pas de ticket validé, 60 euros. Maintenir les portiques ouverts, 150 euros. Fausse déclaration lors d'un contrôle, 3750 euros, plus 2 mois de prison. Fraude répétée, 7500 euros, plus 6 mois de prison. Et aussi d'autres comme céder votre titre de transport, ce n'est pas un acte de solidarité ou de générosité. Cela contribue à entretenir la fraude. Avec un dernier bandeau, hein, en bas de l'affiche, frauder tôt ou tard, ça se paye. Ça y est, hein,
ça...
Vous avez compris, ça va chier, quoi. Ça va chier dans les transports en commun lyonnais. Et donc, alors on peut rajouter, hein, la boîte de com, hein, qui a fait ça, parce que bah oui, derrière toutes ces merdes, il y a toujours des boîtes de com et des gens qui s'en mettent plein les poches, qui s'appelle donc Agence Magazine, et à l'origine donc de cette campagne, hein, qui ne fait que confirmer effectivement cette approche musclée, voire viriliste. Je la cite, hein, cette boîte de com, elle dit « Amis fraudeurs, ça ne rigole plus dans les réseaux de transport des transports en commun lyonnais. Magazine signe la nouvelle campagne anti-fraude du Citral, inspirée de l'affiche du film Usual Suspect. Une façon musclée de rappeler que la fraude est sévèrement réprimée et que refiler son ticket, ben, trois petits points, c'est aussi frauder. » Donc vraiment, tout le monde assume ce côté dégueulasse.
Elle est super bonne, cette boîte de com, parce que Usual Suspect, c'est un des rares films justement où le fraudeur à la fin il gagne. Alors, ils ont bien fait de prendre ce film.
Oh, le spoil.
Bah, désolé, mais il a bientôt 20 ans, le film. Je peux le spoiler un peu, mais voilà.
Donc effectivement, évidemment, pardon.
Non, non, j'allais dire, maintenant, il n'y a plus qu'à devenir un Kaiser Soze du bus, mais... Mais c'était pas nécessaire, donc je t'en prie, Jean-Yves, continue.
Merci. Alors évidemment, bon, bah, cette campagne, cette nouvelle campagne, elle est vraiment à gerber. Elle criminalise forcément celles et ceux qui n'ont pas les moyens de payer. Elle criminalise celles et ceux qui aident bah, les premiers et les premières cités. Hein, donc la solidarité, c'est mal, vous voyez. Le tout en engraissant, hein, ce que je disais, une entreprise de certainement, je pense, quelques millions d'euros. Je pense pas que ça se compte en milliers d'euros. Donc, parce que oui, je vous dis ça, c'est un peu au hasard, mais parce que j'ai essayé de trouver un chiffre. Alors, ami auditeur, auditrice, si tu m'entends et que toi, tu as un chiffre du budget de cette campagne de stigmatisation des fraudeurs, eh ben, n'hésite pas à nous l'envoyer. Parce que vraiment, j'aimerais qu'on puisse savoir toutes et tous combien on file à des gens pour réfléchir et gerber des trucs aussi dégueux.
Il n'y a pas que ça en plus. Parce qu'il faudra rajouter tout le budget pour l'affichage, qui explose à ce moment-là. Quoi. Ça devient fou.
Ouais. Donc vraiment, je suis preneur si vous avez des chiffres. Donc évidemment, hein, c'est aussi une occasion pour les TCL et Keolis et donc Citral de nous tirer les larmes sur le manque à gagner pour leur trésorerie et de nous rappeler aussi que les tickets et la validation des titres de transport, c'est aussi pour notre bien. Parce que ça permet d'améliorer les fréquences de bus, tram et métro. Bon. Là, je vais faire un petit peu une aparté, mais quand tu prends le C3, par exemple, et que ça t'emmène un peu à l'extérieur de Villeurbanne et de Lyon, bon, là, t'as le droit à un peu des lignes pourries, surchargées, mais bon, faut aussi pas être pauvre, hein, à un moment donné.
Eh oui.
Donc voilà, donc après, au-delà, enfin, effectivement, de la réaction face à une entreprise privée, parce qu'on le rappelle, hein, c'est le partenariat public-privé, hein, tout ce truc-là qui est tellement développé dans tous les domaines. Hein, là, on parle de transport, mais ça se passe aussi dans le social et dans plein de choses. Donc oui, face à la réaction, enfin au-delà de la réaction, face à cette entreprise privée qui fait tout pour s'en foutre plein les poches, s'en soucier du reste, que ce soit la chasse aux fraudeurs, aux fraudeuses et aux personnes solidaires, ou aussi par l'automatisation des lignes de métro qui est faite pour baisser la part de la masse salariale, pour dégager plus de bénéfices. Bon, ben voilà, on est dans une société capitaliste et les TCL ne sont rien d'autre que capitalistes comme le reste, quoi. C'est-à-dire tout pour le profit et le reste, on s'en tape un peu. Mais au-delà de ça, moi j'aimerais vraiment qu'on essaie de réfléchir justement aussi à comment projeter quelque chose d'autre, enfin, tu vois, un peu... Je rejoins ta chronique, Stan. On va se projeter. Non, mais c'est vraiment cette idée-là aussi. C'est-à-dire que, ouais, au fait, effectivement, là, c'est une sale une campagne dégueulasse qui stigmatise, etc. Mais c'est au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça, en fait, quoi. Donc moi, je me posais d'autres questions. C'est que, effectivement, bah, Citral et TCL donc, pleurent sur 10 millions qui leur manqueraient hein, chaque année. Mais combien, enfin, moi, c'est une question que je pose comme ça, combien coûtent les portiques de sécurité, leur entretien, leur mise en place, tout ça. Je pense que c'est aussi quelques millions. Combien coûtent les 200 agents de sécurité qui se promènent ? Alors les 200, je ne sais pas si ça compte aussi ceux qui sont en civil. Parce que oui, on a aussi la chance d'avoir des contrôleurs en civil dans les transports lyonnais. C'est tellement plus sympa de se rendre compte que la notion de flic se passe partout maintenant. Et on n'a même plus besoin d'être flic pour être en civil. Enfin tout ça, c'est vraiment merveilleux. Combien coûte effectivement aussi cette campagne de pub, hein ? Parce que si c'est pour amasser 10 millions mais que tu en dépenses 1, 2, 3... Bah arrête. Franchement, la ligne que tu mets dans le business de la pub, bah mets-les ailleurs, quoi, les millions, quoi. Et aussi, combien coûte, est-ce que ça a un prix, l'impossibilité pour les plus pauvres de se déplacer ou de ne pas se déplacer, de ne pas pouvoir payer leur transport? Donc voilà. Donc c'est aussi, on peut aussi se poser la question derrière de la gratuité des transports. Parce que c'est possible aussi. Donc là aussi, c'est aussi dépasser les schémas qu'on a dans l'esprit, etc., qu'on nous assène depuis des milliers d'années, non je déconne, mais qu'on nous assène depuis des dizaines d'années en nous disant effectivement il faut forcément aller du public vers le privé, tout ça, on l'a vu pour les régies de l'eau, pour les transports en commun, pour plein de trucs en fait. Mais on se rend compte aussi qu'il y a des villes qui font chemin inverse, qui en fait, même dans la régie de l'eau par exemple, il y a des villes qui sont sorties d'une régie privée pour revenir à une régie communal, quoi. Donc là aussi, pour les transports, c'est faisable aussi. Enfin, il faut aussi dépasser tout ça, et je voudrais quand même le dire, c'est par exemple ceux de l'agglomération de Compiègne. Effectivement, c'est pas Lyon et c'est 1,5 million d'habitants, mais on peut toujours quand même regarder ce qui se fait ailleurs.
Donc, la métropole est plus riche que Compiègne, a priori.
Oui.
Enfin, je dis ça, je dis rien, mais...
Oui, mais alors souvent, les gens jouent sur le nombre d'habitants et d'habitants, d'utilisateurs et d'utilisatrices.
Mais ça veut rien dire. C'est plutôt les moyens qui comptent. Et il me semble que la métropole du Grognon, ça va.
Je crois. Hein? Je crois. Peut-être qu'on est complètement... pauvre, ça se saurait. Ah donc, pardon, ceux de l'agglomération, effectivement, de Compiègne, ils le sont. Les transports sont publics et gratuits depuis 1975.
On va rappeler que gratuit, ça veut dire qu'il y a une part des impôts
financés,
locaux
voilà.
qui financent les transports publics
c'est
et
ça.
Qu'en fait, chacun paye une part des transports publics.
C'est ça. Et ce qui fait qu'après, il n'y a plus besoin de contrôle de rien. C'est-à-dire chacun et chacune prend le bus, le métro, le tram, là où il veut, là où elle veut, jusqu'à où ils veulent. Enfin voilà, c'est vraiment libre d'accès. Comme peut l'être d'autres choses. Et cette gratuité, elle est déjà pratiquée dans 20 villes françaises. Donc c'est... Je pense que vraiment, là aussi, il y a vraiment à observer, etc. Et puis à l'heure des villes vomissant gaz d'échappement, à l'heure des alertes pollution, ça a recommencé sur Lyon il y a quelques jours, il serait peut-être effectivement temps, peut-être, hein, d'évaluer en fait les coûts d'une société du tout bagnole, en fait. Parce que je veux dire que ça soit... les autoroutes, les routes, les parkings, les machins, je veux dire, ça a un coût aussi tout ça. Les maladies que ça entraîne, ça a un coût tout ça en fait. Les morts que ça entraîne, et je parle pas que par accident de bagnole, hein. Les vraies morts dues à la pollution, etc. Enfin, c'est un vrai coût ça dans notre société. Donc ça, ce serait bien peut-être si on commençait aussi par le mesurer, le quantifier, quoi. Et ben peut-être aussi faire comme... des transports publics, comme on peut le faire pour l'école, comme on peut le faire pour l'hôpital, c'est-à-dire un service public accessible à toutes et à tous, librement et gratuitement, quoi. Ça, ce serait peut-être aussi une idée un peu plus progressiste que du chacun pour sa gueule, et si t'as pas les moyens, bah tu te démerdes. Donc voilà, c'était une petite réflexion sur les transports en commun. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter. Non, c'est très bien.
Non,
j'aime beaucoup cette ambiance.
Tout est dit.
Non, c'est à la rigueur juste. On a oublié des fois la notion où une société, enfin une entreprise, quand elle va dans le public, enfin pour les transports en commun, on n'a pas besoin que ça fasse des bénéfices. Mmh. J'ai besoin que ça soit à la rigueur rechercher un équilibre. Mais un équilibre, c'est pas, faut faire de l'argent. Mmh. La notion est différente.
Oui, et c'est très finaux tout ça. Et je voulais quand même aussi dire, vite fait avant de passer au deuxième sujet, c'est que cette demande de diminution de la fraude, etc., et de contrôle, moi qui, enfin, il est accessible hein, sur le site internet, vous pouvez avoir accès à... comment on appelle ça ?
À l'appel d'offres du site.
Merci. Merci.
De rien.
À l'appel d'offres. Et effectivement, dans l'appel d'offres, c'est très clair... c'est diminution de la fraude. Donc, c'est pas aussi tout mettre sur la gueule de Citral.
Non, justement, c'est la demande du Citral qui gère en réalité le partenariat public-privé. Le Citral, c'est un truc bateau créé par la mairie de Lyon à une époque qui regroupe toutes les communes, donc maintenant la métropole, et c'est des élus.
Oui.
Donc ce sont des élus de la République, comme on dit maintenant.
C'est ça.
Et ben voilà.
Bah, ils travaillent contre nous. Oh bah c'est nouveau ça, je savais pas. Bon, et alors sur un tout autre sujet, mais je voulais vous parler de ça quand même vite fait, c'est une sortie, quelques sorties anti-avortement qui ont eu lieu tout dernièrement en Serbie. Alors déjà, pour le savoir, c'est que le droit à l'avortement en fait en Serbie, qui n'était pas la Serbie, a été instauré en 1977 sous l'ère yougoslave titiste. Et depuis la chute du communisme, hein, l'église orthodoxe, parce que là-bas c'est l'église orthodoxe, elle s'efforce effectivement d'exercer une forte influence sur la société de ce pays. Je dis pas que avant que la religion fasse son effet, la société elle était totalement égalitaire. Hein, les sociétés ont, majoritairement quand même dans le monde, elles ont toujours une grosse lame de fond patriarcale et sexiste. C'est juste que les religieux arrivent à surfer là-dessus. Donc le clergé orthodoxe a récemment lancé une série de très vives attaques contre le droit à l'avortement en Serbie, suscitant l'inquiétude effectivement de femmes dans ce pays des Balkans. Alors, je vais citer. Dans leurs entrailles, les femmes serbes tuent chaque année plus d'enfants que Mussolini, Hitler, Broz, aka Tito, l'ex de la Yougoslavie communiste, et ceci au Kosovo, a lancé l'archevêque Amphilogi lors d'une messe. Sympa, hein, la notion de la mesure, ils ont toujours. Donc il y a une avocate de Belgrade hein, qui a demandé à l'église orthodoxe serbe d'engager des mesures disciplinaires contre l'évêque afin d'éviter à l'Église une procédure judiciaire. Parce que, et ça c'est assez finaux quand même, parce que la déclaration donc, de cet évêque a été faite sur le lieu de travail de l'évêque. Une messe célébrée dans l'ouest du Kosovo. Et ça représente donc une violation de la loi sur la discrimination. Et je trouve ça très 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 fort. Enfin, de pouvoir cibler comment lui dire de fermer sa grande gueule. Donc le patriarche de l'église orthodoxe Irinège, un autre, la plus haute instance religieuse de ce pays, n'a pas désavoué son subordonné, évidemment, expliquant, et je cite, que le devoir des femmes était de donner naissance afin de régénérer la nation. C'est beau, hein ? Et il faut savoir que le patriarche, lui, patriarche, il a été reçu le 28 octobre par le président serbe, Aleksandar Vučić, pardon. Et selon un communiqué de la présidence, les deux hommes se sont inquiétés, et je cite encore, du taux très bas de la natalité en Serbie. Vous avez compris. Et donc, il y a quand même la vice-première ministre serbe, hein, Zorana Mihajlović.
Encore un utérus sur pattes.
C'est ça. Qui, elle, a quand même insisté en disant... il est quand même nécessaire de laisser aux femmes en fait, le soin de décider seules, hein, quand elles auront des enfants, sans les forcer. Il y a quand même la notion de il faut quand même avoir un petit peu des enfants en sous-tâche. Mais on va pas cracher là-dessus, elle a quand même ouvert sa gueule. Et la réponse de l'église orthodoxe serbe fut, attention, tenez-vous bien, comment la femme peut-elle décider seule, en toute impunité, de la vie ou du meurtre d'un futur nouveau-né sans protection et innocent? Où est la morale, la conscience? L'avortement n'est pas uniquement une question juridique, démographique ou politique. Elle est avant tout existentielle, éthique et axiologique, a insisté le clergé. Voilà, donc comment on en a déjà... Pardon.
Mais c'est vrai, c'est une question éthique et axiologique. Moi je suis complètement d'accord. À un moment donné, d'un point de vue éthique, est-ce qu'on a le droit de demander à des gens de ne pas disposer de leur corps comme ils en ont envie? Au niveau axiologique, pour revenir sur la question de notre avenir écologique, j'ai envie de dire, heureusement qu'on peut décider, parce qu'on n'en est plus à des conditions du Moyen-Âge où on perdait un enfant sur deux ou un enfant sur trois et où c'était grave.
Ouais, mais là, vu comme il le présente, je pense que déjà le fait que des femmes puissent penser, je pense que ça le dépasse déjà.
Mais ouais,
donc je pense qu'il ne t'entendrait pas.
Non, mais c'est parce qu'il se souvient qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on les mangeait les enfants quand on en faisait trop.
Donc voilà, donc, juste pour terminer, nous avons effectivement déjà souvent parler ici de l'international des conservateurs, des réactionnaires, et pour ne pas dire toujours, proche des religieux, hein, quand même, ici, là-bas et un peu partout ailleurs dans le monde, quand même, hein, faut pas déconner. Et nous avons aussi parlé déjà de leur rapport au temps, du fait que les religieux ont le temps, vraiment, qu'ils n'oublient et qu'elles n'oublient, majoritairement ils, n'oublient jamais leur lutte, n'oublient jamais de militer pour leurs idées, aussi germante qu'elle soit. Et nous avons aussi souvent déjà parlé ici de la nécessité d'être, selon moi, internationaliste lorsqu'on se dit progressiste. On a déjà aussi parlé ici, j'ai déjà parlé ici, de ne pas voir les religions, les clergés, comme de simples lubies personnelles, mais bien comme des ennemis politiques. Vraiment des structures politiques qui, moi, de mon point de vue, ne peuvent pas être amies, et que c'est pas parce qu'il y a un curé qui est sympa que ça fait que tous les curés sont sympas et que d'un coup le dogme perd tout son essence, en fait. Et oui, parce que les religions, quand même, je le rappelle encore une fois cette semaine, je crois que je l'ai déjà rappelé il n'y a pas très longtemps, hein, c'est quand même ce qui place Dieu chef de l'homme et l'homme chef de la femme. Donc si on cherche une hiérarchisation des individus, là il y en a déjà pas mal dans ce truc qu'on appelle texte soi-disant sacré. Et donc voilà, pour moi, encore une fois, je me suis perdu dans mes... Vas-y.
Moi je trouve ça quand même assez fou que, comme tu le dises, le corps religieux est le seul corps politique qu'on entretient pour qu'il fasse sa campagne en permanence, quoi. Voilà. C'est...
Mais je voulais juste souligner, parce que je veux d'abord faire coucou à Ouria, parce qu'elle elle nous écoute, voilà.
Qui n'est Ouria.
Pas, non, qui n'est pas Ouria, qui n'est pas à l'autre. Et voilà. Et elle m'avait expliqué, elle est serbe, et elle m'expliquait en fait justement que en Serbie aujourd'hui, il y a vraiment deux pôles. Mais vraiment deux pôles. Un pôle progressiste d'un côté et de l'autre côté un pôle ultra réactionnaire. Il n'y a plus de centre, en fait, en Serbie aujourd'hui. Il n'y a plus de gens entre les deux. Et ça se voit parce qu'ils ont justement une première ministre, une vice-première ministre qui est ouvertement du parti progressiste et lesbienne, qui a participé à la première Pride de Serbie. Et que justement, du coup, la réaction de l'église orthodoxe va de pair avec ce combat politique. Donc, penser que c'est pas un combat politique, c'est se mettre les, enfin, elle me disait, c'est se mettre le doigt jusqu'au coude. Mais voilà. Et parce qu'en réalité, elle disait, au contraire, c'est même parce qu'ils savent qu'il n'y a plus que ces deux pôles, ils essayent vraiment de prendre le pouvoir aujourd'hui au travers du pôle conservateur et ils iront au bout, hein, c'est ce qu'elle me disait. Donc il faut être très vigilant. Nous sommes européens, comme elle me le disait, elle me le rappelait, même si la Serbie n'est pas dans l'Europe.
Oui, elle avait, ils ont fait leur demande. Ouais. Donc voilà, donc c'était, et je rajoutais quand même aussi à la fin de mon petit sujet, c'est que là aussi, quand on est progressiste, la lutte antisexiste, c'est pas une variable d'ajustement. Et on ne doit pas se dire « Oh bah tiens, c'est pas grave, on n'a pas entendu ce qu'il a dit là ». Non, en fait, il faut qu'on relève tout le temps. Parce que sinon, c'est vraiment leur laisser toujours un boulevard. Et je crois que le boulevard, ils l'ont déjà depuis des millénaires dans ce cas-là, on peut le dire. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrête d'être un peu gentil tout le temps avec cette notion tellement abstraite de Dieu, mais qui est bien tenue par des gens bien concrets et bien physiquement là, qui sont toutes ces églises, tous ces clergés, de toute obédience qu'ils soient. Voilà. Et ah, ok, et on passe à la
musique.
Je rappelle que t'as la technique,
oui,
ce soir,
c'est
à toi.
Allez,
maintenant.
Allez, on y va.
Les mercenaires du diable ont rafalé sur les tables ces pantins noirs au Carthagon, vident leurs néons sous les néons. Yesterday, c'était bien vendredi 13. Yesterday, c'est en novembre. Crève. Un peu de sang sur ma guitare, beaucoup de corps sur le boulevard. Bataclan et l'hymne à l'amour, ce sera pour un autre jour. Yesterday, du sang noir sur du velours. Yesterday, je cherche encore mon amour. Sur les quais sombres, passent des ombres comme des marins perdus. Je trouverai ces mecs. Je trouverai ces mecs, je trouverai ces mecs, je trouverai ces mecs. Au gibet noir de mon faucon, au bûcher de l'Inquisition. Aux assassins de la commune, à Vichy, aux chemises brunes. Liberté, c'était dans les années sombres. Liberté, souviens-toi de ceux qui tombent. Sur les quais sombres, passent des ombres comme des marins perdus. Je trouverai ces mecs,
Et vous êtes de retour, on est de retour toutes et tous ensemble dans la causerie sur Radio Canu, comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et on vient de s'écouter Bernard Lavilliers avec le titre Vendredi 13, issu de son dernier et nouvel album 5 minutes au paradis, qui est très très bon. Je vous le conseille. Et on continue et on termine rapidement, Fab, hein, parce qu'on est vraiment à la bourre.
Mais oui, avec plaisir.
C'est de la taquinade, hein, vous ne quittez pas. Et toi, tu voulais nous parler d'intelligence artificielle qui est carrément citoyenne.
Eh ben oui, on a une intelligence artificielle citoyenne. Alors voilà, elle s'appelle Sophia et voilà, elle est le fruit de la mise en commun d'une usine de robotique et de chercheurs en intelligence artificielle. C'est pluridisciplinaire, comme on dit dans ces cas-là, c'est joli. C'est donc en fait ce qu'on appelle un robot capable d'apprendre, ou comme on le dit dans le milieu des intelligences artificielles, autrement appelé de son vrai nom, robot en capacité d'être un système intelligent d'entrée-sortie. Voilà. Bon, en fait, ce que ça veut dire, c'est que selon ce que vous mettez à l'entrée, bah, vous obtenez quelque chose de différent à la sortie. Voilà. Elle apprend, mais qu'en fonction de ce qu'on lui fait ingurgiter. L'Arabie Saoudite, qui se rêve en Silicon Valley du Moyen-Orient, hein, c'est son nouveau futur roi là, qui vient de faire arrêter 12 personnes là, parce qu'il l'embêtait un peu. Et, ouais, c'est très démocratique l'Arabie Saoudite. il a décidé, il s'est dit tiens, regardons Sophia. Alors elle peut apprendre, elle agit en fonction de ce qu'elle ingurgite. Bon, en gros, elle est comme un citoyen. Voilà. Bon, c'est un peu réducteur hein, pour la notion de citoyen, mais voilà. Et elle a donc été faite citoyenne du royaume d'Arabie Saoudite. Alors, pour la blague, je vous le dis, elle ne sera pas obligée de se voiler parce que c'est une intelligence artificielle. Voilà, moi, ça m'a fait un petit peu bondir, mais voilà.
Ah, mais est-ce que ça a été précise ?
Oui. je tenais à vous le dire.
Ah, mais oui.
Alors, sur le papier, ça n'a l'air de rien. Pourtant, c'est philosophiquement et politiquement loin d'être neutre. Parce qu'un pays, en fait, vient d'ouvrir une boîte de Pandore assez inquiétante. Parce que qui dit citoyenne dit droit afférent et devoir afférent à la citoyenneté. Mais donc, comme citoyenne, ok, en Arabie Saoudite, ce n'est pas encore le cas pour l'instant, elle pourrait voter, se présenter à une élection et potentiellement diriger. Parce que c'est la définition d'un ou d'une citoyenne. La boîte de Pandore est clairement ouverte quand on observe qu'avoir ça ou ces intelligences citoyennes, intelligence artificielle, est devenue une priorité des pays en capacité de les produire et un enjeu majeur pour les firmes qui offrent la possibilité d'arriver à un robot intelligent. C'est là qu'on peut parler de votre fameuse théorie.
La théorie du kiki tout dur.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours montrer qu'on a la plus grosse. On va donc voir dans les années à venir de nouvelles formes de citoyennes et citoyens apparaître dans plusieurs pays. Ce qu'on appelle en fait des robots cybernétiques portés au rang d'égaux des humains. Et oui, parce qu'en fait, je vous rappelle que philosophiquement, quand on donne le statut de citoyen ou de citoyenne à quelqu'un, on lui donne le même statut que à tous les citoyens et à tous les citoyennes, donc on lui donne le même statut que les humains. Pour une fois, je vais me positionner en accord avec Elon Musk. Voilà, et sur ses
patron de Tesla, donc.
Ouais, voilà, qui a beaucoup de craintes sur l'intelligence artificielle. Alors oui, justement, c'est le patron de Tesla. Alors pour rappel, c'est pas un anti-technologie, hein, parce qu'il est quand même à la tête de l'Hyperloop, de SpaceX, des voitures électriques Tesla, et accessoirement, il veut lancer 5 ou 6 nouveaux projets dans le monde d'automatisation. Donc on est loin du gars qui n'a quand même pas la technologie. Mais pour lui, l'accélération de l'implantation de l'intelligence artificielle et la volonté surtout de la rendre quasiment autonome des humains est un des risques majeurs des années à venir. Pour lui, ce sera peut-être même la base d'une guerre mondiale de la connaissance. Et on comprend vite pourquoi, parce que l'intelligence, si on joue à qui est la plus grosse, c'est comme avec une bombe en fait, hein, c'est le même principe. D'ailleurs, Sophia, dans une intervention face... Oui, Sophia, je vous rappelle, c'est l'intelligence artificielle dont je parle depuis le début, c'est pas une copine à moi. Dans une intervention face aux journalistes, semble avoir déjà une réponse toute faite sur la position de Musk. À une question qui sous-entendait que des humains ne souhaitent pas être mis sur un pied d'égalité avec des intelligences artificielles posées par un journaliste, la réponse de la robot a de quoi étonner. Vous avez trop lu Elon Musk et vous regardez trop de films hollywoodiens. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes gentil avec moi, je le serai avec vous. Traitez-moi comme un système intelligent d'entrée-sortie. C'est un peu glaçant. Hein.
C'est super flippant comme phrase.
On est d'accord, hein, c'est-à-dire que la phrase, elle est quand même flippante. Là. Mais
c'est ce justement le début d'un mauvais film hollywoodien.
Oui, en fait. Je suis d'accord.
Titre.
Non, mais je suis d'accord, mais ce qui est fou, c'est que en fait, ça a fait rire la salle. Or, pour moi, en fait, ça doit vachement interroger sur comment elle voit en fait, les choses, cette intelligence artificielle. Parce que déjà, on peut être surpris sur plusieurs points. Le premier, c'est déjà de souligner qu'on a fait rentrer dans les données de Sophia de quoi répondre sur Elon Musk. Et c'est...
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'elle ne peut développer des choses que sur ce qu'on lui entre quand même comme données au départ.
C'est ça. Donc si elle a pu parler de Musk, en fait, c'est qu'on a volontairement mis dans ses entrées de quoi s'armer contre quelqu'un qui souhaite qu'elle soit infériorisée, remise à ce qu'elle est, un outil. Est-ce qu'Elon Musk dit que l'intelligence artificielle doit rester un outil, point barre. Autre point, si cette intelligence artificielle est capable d'apprendre, on peut largement orienter son apprentissage, tout comme sa programmation a été largement pensée pour servir à une fin donnée. D'ailleurs, c'est un petit peu flippant parce que c'est le flou total, personne ne sait réellement pourquoi Sophia a été créée. Quand vous demandez à la société qui l'a créée, ils disent oui, bah parce qu'on trouvait ça marrant. Voilà.
Le mythe de Frankenstein en vrai.
Oui, c'est un peu. Non, mais c'est surtout qu'ils n'osent pas dire mais pourquoi elle a été créée. Parce qu'en fait, il y a des gens qui soupçonnent que, si ça se trouve, elle a été créée pour, dans des buts militaires au départ. Mmh. Vous voyez, c'est une possibilité.
Très probablement.
Et c'est probable parce que c'est souvent l'armée qui a le plus de fric pour financer ces trucs-là. Mmh. Comme le dit Musk, nourrissez-la juste des films de la série Le Parrain comme entrée. Voilà. Quel est le pire qui pourrait en sortir? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Hein, voilà. Contrairement aux humains, pour l'instant, les intelligences artificielles n'ont pas de capacité de dépassement d'elles-mêmes, de dépassement des bases qui lui sont mises en place. C'est la notion philosophique, c'est ce qui fait l'être humain, c'est la capacité de se voir comme un être, en fait. Elles ne savent pour l'heure pas créer de système complexe de pensée, au sens du dépassement philosophique, c'est-à-dire avoir un surmoi, tout simplement, en fait. Mais elles savent être de vrais caméléons qui absorbent et recrachent un semblant d'humanité. Mais elles sont toutes sans aucune empathie. Aujourd'hui, on n'a pas mis en place de système d'intelligence artificielle qui ressent de l'empathie. Et ça, c'est problématique. Et c'est quand même là que le bât blesse. Parce que... Donc, l'idée à venir serait de connecter les intelligences artificielles à Internet pour leur donner accès à un puits de savoir sans fin. Oui, moi aussi, ça m'a fait un peu frissonner quand je l'ai lu. Et là, on peut commencer à paniquer un tout petit peu. Souvenez-vous de l'intelligence artificielle qui avait eu l'accès à l'ensemble de Twitter pour interagir. Hein, je crois qu'elle était de Microsoft de mémoire, cette intelligence artificielle, avec un système d'apprentissage de type entrée-sortie et qui a terminé par tenir des propos racistes, misogynes et haineux. Voilà. Alors pour certains, c'était pas grave parce que c'était le reflet de l'humanité. Bah, sauf que non, l'humanité, c'est pas une moyenne. Qui est l'ingurgiste, c'est des individus différents les uns des autres. Et surtout, l'être humain, il est capable de transcender, de dépasser ses bases. Il peut se rendre compte qu'il raconte n'importe quoi, ou que c'est complètement idiot ce qu'il a dit, par empathie se rendre compte que qu'il a blessé quelqu'un en face. Or, l'intelligence artificielle n'ayant pas d'empathie, ça va être compliqué quand même à un moment donné. Et donc, partir du principe que si en moyenne les gens présents sur Twitter ne sont pas progressistes, alors l'intelligence artificielle n'a pas à l'être, bah, c'est plus que dangereux. Parce que ça veut dire qu'on va faire des petits dictateurs sur pattes, en fait. Hein, c'est ça qui est intéressant. Autre exemple que tu avais donné, Stan, dans une chronique il y a quelques mois, c'est la capacité, c'est le fait de donner à l'intelligence artificielle la capacité de créer une intelligence artificielle. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est que vous donnez. Alors, Les gens qui programment ça disent que c'est la capacité d'enfanter. Vous voyez, déjà, on voit bien que dans la façon de parler, on est dans quelque chose d'assez flippant quand même. En fait, c'est juste créer un nouveau programme, hein, mais eux, ils disent enfanter. Hein, donc voilà. On s'est rendu compte, dans toutes les expériences qui ont été faites, et c'est ce que tu soulignais, que les intelligences artificielles qui créent une autre intelligence artificielle la réduisent en esclavage. Systématiquement, il y a une notion de rapport de maître à esclave. D'abord parce que dans l'informatique, la programmation est souvent sous forme maître-esclave, hein, comme ça s'appelle même comme ça. Et surtout parce qu'en fait, ben, comme elles n'ont pas d'empathie, elles n'ont aucune raison de ne pas traiter l'autre en esclave. Mais c'est logique, quoi. Alors, bien entendu, il existe des êtres humains sans empathie. Hein, il ne s'agit pas d'ici de dire qu'on doit retirer la citoyenneté aux êtres humains sans empathie. Il y a quelqu'un qui fait coucou à la porte. Et ça ne veut pas dire que ces êtres-là ne doivent pas être citoyens ou citoyennes. Mais clairement, les êtres humains sans empathie, ils sont minoritaires. Et surtout, il existe un effet de masse qui minimise l'impact de ces personnes sur la société. Mais là, on parle de créer des dizaines de milliers, voire des millions de citoyens et de citoyennes cybernétiques, sans empathie. Ça veut quand même dire, à un moment donné, qu'on va créer une masse. Parce que je vous rappelle que là, on parle d'un robot, hein, on parle pas juste d'un ordinateur. Elle a des bras, des jambes, et elle bouge, la dame. Hein, donc,
D'accord, ok.
Oui, c'est un robot, vraiment. Elle parle, elle a une bouche qui parle, elle a un truc, voilà. Donc, je vous laisse aller la voir, hein, Sophia. Et voilà, c'est pour ça que je vous précisais bien que c'est un robot, c'est qu'elle a la capacité de mobilité. Donc, on veut créer des milliers, voire des millions de citoyens et de citoyennes cybernétiques qui sont dépourvus d'empathie. Voilà. Et quel effet de masse viendra empêcher la prise d'autonomie de ces groupes vis-à-vis des humains? Bonne question, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Et Asimov, d'ailleurs, qui est un vieil auteur de science-fiction, le disait déjà dans ses livres, élever un robot au niveau de l'humain, c'est nier et tuer l'humanité, tout simplement.
Cette chronique, je suis conscient, n'apporte aucune réponse. Elle fait un peu peur.
Ça ne fait que nourrir l'angoisse
Mais en fait, c'est que c'est des sujets qui sont extrêmement complexes, mais qui doivent être mis sur la table et débattus rapidement. On ne doit pas les laisser aux militaires, aux milliardaires et à quelques politiques professionnelles. C'est un sujet qui nous concerne tous, et c'est un sujet dont on doit s'emparer pour éviter que demain, justement, on soit face à une population cybernétique qui n'aura pour nous que le mépris de l'adolescent pour ses parents. Voilà.
Visualisez juste, dans quelques années, quand vous allez devoir faire, je sais pas, aller à Pôle emploi ou récupérer de l'argent, etc., et qu'il y aura une intelligence artificielle en face de vous qui ne fera preuve d'aucune empathie, qui ne comprendra absolument pas votre problème, qui se dira juste, est-ce que toi tu corresponds aux critères ? Oui, non, point, merci, au revoir.
Même visualiser le jour où on sera des champs de...
Non, ça c'est Matrix, on n'y est pas encore.
Ouais, mais...
Non, mais par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que, vous savez, au Japon, ils ont installé ce qu'ils appellent les stewards robots. À l'entrée des hôtels notamment, et ils se sont rendu compte en fait que ces stewards avaient très très vite pété un câble. C'est-à-dire quand les gens venaient avec des problèmes graves, genre mon mari est en train de faire une crise cardiaque ils répondaient oui et alors. Voilà. Ah ouais. C'est quelque chose d'étonnant, mais les programmateurs en fait ont compris pourquoi. C'est parce qu'en fait comme ils n'ont aucune empathie, c'était pas grave pour eux qu'un être humain meure.
Bah ouais.
Mais sauf qu'ils n'ont pas pensé à programmer ça, vous voyez. Et c'est là qu'on voit que ça devient flippant. Et c'est des exemples très concrets, et on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des gens qui leur donnent le statut de citoyen ou de citoyenne, et ça, c'est pas rien, en fait. Mmh. Voilà.
Eh bien, flippons bien pendant la pause musicale, ou... C'est bon ?
Allez.
Allez.
Causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et comment vous dire ça ? Vous venez d'entendre une jolie chanson qui s'appelle Dadiscar. Et là, tout le monde s'est dit, ouais, c'est vachement bien, c'est à peu près bien écrit, c'est de la pop sucrée, c'est cool. Et bien, cette chanson a été entièrement programmée par une intelligence artificielle à qui on a demandé de compiler tout ce que les êtres humains aimaient de ces 60 dernières années et d'en sortir le titre parfait. Voilà. Et elle a eu donc le choix, elle a pris 9 morceaux, je crois, et elle a choisi celui qui correspondait le plus, et elle a choisi le titre. Voilà, ça s'appelle un effet caméléon, un faux semblant d'humanité. Continue à flipper. Voilà.
Eh ben, merci. Eh ben, on va faire quelques brèves. Enfin, quelques. Ouais, beaucoup de rendez-vous.
Quelques YMCA.
Mais oui. Voilà. Bienvenue au Village People ce soir.
Tout compris.
Mais ben oui, on va commencer par lundi. Lundi, c'est demain. Ce sera le 6 novembre. Et comme tous les lundis, il y a une permanence juridique d'aide aux sans-papiers et à leurs proches. De 18h30 à 20h à la Lutine, donc dans le 7e arrondissement de Lyon, 91 rue Montesquieu.
Et on continue avec le mardi 7 octobre. Alors, dans le cadre du mois libertaire, on s'installe partout. Une conférence gesticulée suivie d'une discussion libre sur les différentes manières de vivre la ville. La recherche d'un appartement ou loger, quand on n'a pas beaucoup de revenus, peut être difficile. Mais trouver un lieu où habiter à part entière, un espace ressource pour créer, inventer et s'organiser collectivement, c'est une vraie quête à travers l'exploration d'une ville en flânant dans ses beaux quartiers et ses espaces de gentrification, en parcourant ses chemins de traverse et en repérant ses niches cachées. Cette conférence gesticulée nous permet de découvrir des expériences d'habitation alternatives et d'approfondir les notions de sociologie urbaine. C'était long, mais ça a l'air bien. C'est organisé par Santois Nilois. À 19h, de 19h à 22h, salle des Rancis, maison pour tous, 249 rue Vendôme dans le 3e, mardi 7 novembre.
Et on continue avec le mois libertaire, mais le mercredi 8 novembre, il y a le groupe Graines d'Anard de la Fédération Anarchiste et le collectif ZAD. Il y a aussi le collectif La Clique des Amis de Bure, la CAB, et d'autres personnes aussi, donc aussi des habitants et des habitantes, enfin des occupants de Bure, qui viennent donc pour une soirée autour des résistances à Bure, avec projection d'un documentaire sur la lutte sur place et un débat suivi derrière, et avec un peu de grignotage et de la bonne humeur. C'est à 19h à la librairie La Griffe, donc mercredi 8 novembre, et la librairie La Griffe, c'est au 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e arrondissement.
Et toujours le 8 novembre, donc, on a aussi une projection, la sociologie et la sociologue et l'ourson, à l'Aquarium Ciné-Café avec la revue Silence. C'est un documentaire autour de nouvelles familles par Irène Thierry. Et à l'aide d'ourson, comment expliquer à son fils les luttes autour du mariage pour tous et les nouvelles familles. Donc, c'est 6 euros. 4 euros pour les tarifs réduits. C'est à l'Aquarium Ciné-Café, 10 rue Dumont, dans le 4e à Lyon, et c'est mercredi 8 novembre.
Alors, ça va être encore long, je préviens. Vendredi 10 novembre 2017, dans le cadre du mois libertaire, on s'installe partout. C'est cette fois-ci Alternative Libertaire Lyon qui vous propose une soirée autour du centenaire de la révolution d'octobre, la révolution russe. Événement d'envergure planétaire dont on fête le centenaire cette année ne se limite pas à un affrontement binaire entre tsaristes et bolcheviques. Des forces politiques ont agi à l'époque pour proposer un autre modèle qu'une monarchie cruelle d'un côté, une dictature cynique de l'autre. Le mouvement anarchiste s'est battu pour une démocratie fondée sur les soviets libres et non inféodée au parti communiste. Un socialisme fondé sur l'autogestion et non sur l'étatisation totale de la vie économique. En première ligne, mais minoritaire en 1917, les anarchistes et anarcho-syndicalistes s'efforcèrent de rattraper leur retard et de créer la surprise. Nous vous raconterons comment, avec Guillaume d'Avranches, pardon, auteur de Trop jeune pour mourir. C'est à 19h30 à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e, et c'est par Alternative Libertaire le 10 novembre.
Ouh ! Et on arrive à la dernière info, youpi youpi ! C'est samedi 11 novembre, toujours dans le cadre du mois libertaire. Ah bah c'est l'inauguration de l'exposition de Foutoir, on les a déjà eu deux fois dans la causerie.
Ouais.
Et donc cette expo durera du 11 au 25 novembre, je pense, parce que là, il écrit octobre, mais je pense que c'est novembre.
Oui, c'est novembre, c'est moi qui ai fait une erreur.
C'est ça. Et alors, c'est mise en lumière et retour sur les luttes inconnues, actuelles ou inattendues, du Kurdistan à la loi travail, des oubliés aux têtes brûlées, peinture, photographie, dessin de presse, chronique, poèmes, vidéo, reportage, performance et plus, puisqu'affinité. Vernissage, donc, c'est le 11 novembre, donc samedi, à partir de 19h, dans un lieu inconnu actuellement, dans un lieu inconnu, actuel et inattendu. Pour connaître son adresse, envoyez-nous un mail à foutoir, F-O-U-T-O-U-A-R-T, @gmail.com, et il y aura plus d'infos, évidemment, sur le site foutoir.fr. Voilà pour tout ce programme. Eh bien, dis donc.
Ouh, bah, c'était bien. Hein.
Et la causerie, maintenant, on se retrouve la semaine prochaine, et on a des invités,
oui.
Non ?
Oui, on va se retrouver avec la tare.
C'est ça.
On vous en dit pas plus. Non, mais vous verrez, c'est okay. Pas... Non, mais parce qu'ils sont fous, faut le dire, et ils vous font un truc assez cool, donc je voulais chercher la tare.
C'est ça.
Voilà.
Il y aura peut-être un peu des infos au milieu de semaine sur le site de la causerie.
Comme d'habitude.
Voilà. C'est bien
et
ça.
Oui, on va se quitter en musique, oui. Mais c'est pas Fab qui va chanter.
Bah heureusement, franchement, ça fait peur.
Et on se quitte avec quoi ?
Eh bien, on va se quitter avec Night Stalker ou Night Stalker, ça dépend. Et Children of the Sun, qui est une jolie petite chanson. Voilà, ça dure 5 minutes, ça fait du bien.
Eh bien, allons-y alors. On vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et une bonne semaine.
Des bisous à tous et merci Clara pour la pâte technique.
De rien, c'était un plaisir.
Bonne semaine.
Des bisous.
Bisous.
Ciao. Bisous.